Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Anatomie pour le mouvement, nouvelle édition, est un ouvrage d'anatomie fonctionnelle consacré à la compréhension de l'appareil locomoteur à partir des gestes qu'il rend possible. Écrit par Blandine Calais-Germain, professeure de danse et kinésithérapeute, ce premier volume propose une introduction structurée à l'analyse des techniques corporelles. Il ne présente pas seulement des os, articulations et muscles comme des éléments isolés, il les relie aux flexions, extensions, rotations, appuis et coordination du corps. Son organisation couvre les bases anatomiques, puis le tronc, les membres supérieurs et les membres inférieurs. L'édition récente comprend plus de 1100 dessins commentés et des codes QR destinés à mieux visualiser certaines structures. Le livre vise des lecteurs non spécialistes ayant besoin de repères rigoureux, notamment dans la danse, le sport, le yoga, les arts martiaux, la rééducation ou les études du mouvement. Sa finalité est de construire une compréhension utilisable de la mécanique corporelle, sans se substituer à un traité médical exhaustif ou à un diagnostic clinique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une anatomie étudiée à partir des mouvements plutôt que de listes isolées, la contribution centrale du livre réside dans son point de départ fonctionnel. Au lieu de demander au lecteur de mémoriser séparément une nomenclature de muscles, de reliefs osseux et de ligaments, il met les structures en relation avec les actions corporelles auxquelles elles participent. Cette orientation permet de comprendre pourquoi la forme des surfaces articulaires, la direction des fibres musculaires ou la position des segments osseux influencent un mouvement donné. Les notions de flexion, extension, rotation, abduction et adduction deviennent ainsi des outils de lecture du corps réel et non de simples définitions. Cette méthode est particulièrement pertinente pour les disciplines où observer un geste, le reproduire ou le corriger occupe une place importante. Elle aide à distinguer le mouvement visible de ses conditions anatomiques, une amplitude dépend des articulations concernées, mais aussi de la relation entre plusieurs segments et de la participation musculaire. Le livre propose donc une anatomie appliquée au mouvement, tout en conservant les repères nécessaires pour identifier les structures. Il ne réduit pas le corps à une machine parfaitement prévisible, mais fournit un cadre pour décrire avec précision ce qui se déplace, autour de quel axe et dans quelle limite générale. Deuxièmement, le dessin en volume comme instrument de repérage spatial et l'abondance des illustrations constituent un choix pédagogique déterminant. Les dessins en volume cherchent à rendre intelligibles des structures qui sont difficiles à imaginer à partir du seul texte orientation des os, profondeur relative des muscles, zone de passage et rapport entre les parties du corps. Pour un lecteur qui débute, la difficulté de l'anatomie ne tient pas uniquement au vocabulaire, mais à la nécessité de se construire une image spatiale cohérente. Les planches commentées répondent à cette difficulté en associant une vue anatomique à des explications concises et à des situations de mouvement. Cette présentation favorise une lecture en plusieurs niveaux. On peut d'abord identifier les grands repères, puis revenir sur les détails des insertions, des articulations ou des actions musculaires. Les avis disponibles soulignent régulièrement la clarté de ces schémas, même si certains lecteurs regrettent leur caractère principalement noir et blanc. Cette sobriété peut néanmoins encourager une observation active, par exemple en suivant le trajet d'un muscle ou en ajoutant ses propres repères. Les codes QR de la nouvelle édition prolongent cette logique de visualisation. Ils ne remplacent pas la lecture attentive des figures, mais apportent un support complémentaire pour mieux situer les structures décrites. Troisièmement, du tronc aux extrémités. Une cartographie complète de l'appareil locomoteur, l'organisation du volume suit une progression anatomique qui couvre les principales régions impliquées dans le mouvement. Après les généralités sur la position anatomique, les plans de mouvement, le squelette, les articulations et les muscles, le livre examine le tronc, puis les membres supérieurs et inférieurs. Le tronc inclut notamment la colonne vertébrale, le bassin et la cage thoracique, soit des zones essentielles pour comprendre la stabilité, les transferts de charge et la mobilité globale. Les chapitres consacrés aux membres supérieurs abordent l'épaule, le coude, le poignet et la main, en distinguant les articulations et les segments qui rendent possible la précision gestuelle. Ceux sur le membre inférieur couvrent la hanche, le genou, la cheville et le pied, avec une attention utile aux appuis et à la locomotion. Pour chaque région, l'ouvrage articule morphologie visible ou palpable, mouvement, os, structure articulaire et muscles. Cette répétition de cadre n'est pas mécanique, elle installe une méthode de lecture applicable à chaque zone. Le lecteur peut ainsi comparer les fonctions d'une articulation mobile et celles d'une région davantage orientée vers le soutien ou la transmission des forces. L'ensemble donne une vue d'ensemble du système locomoteur, sans confondre les particularités fonctionnelles de chaque région. Quatrièmement, une méthode plurisensorielle qui associe observation, vocabulaire et expérience corporelle. anatomie pour le mouvement se rattache à une méthode d'enseignement qui alterne savoir anatomique et expérience du mouvement. Cette dimension plurisensorielle explique que le livre soit souvent utilisé dans des formations corporelles. Lire une description de rotation de hanche. Repérer les reliefs du bassin sur une figure et sentir ce mouvement dans son propre corps sont trois opérations différentes mais complémentaires. Leur association améliore la mémorisation et évite de traiter les termes anatomiques comme un vocabulaire détaché de toute perception. L'ouvrage fournit des repères palpables et visibles qui permettent de relier une structure interne à une référence plus concrète. Il reste toutefois important de conserver une distinction entre exploration pédagogique et évaluation clinique. Sentir ou observer un mouvement ne permet pas, à lui seul, de conclure à une lésion, à un déséquilibre ou à une indication thérapeutique. La valeur du livre est plutôt de rendre le lecteur plus précis dans ses questions. Quelle articulation contribue au geste? Quel segment se déplace? Quel muscle intervient et quelles limites anatomiques doivent être considérées? Cette approche convient particulièrement aux enseignants, pratiquants et étudiants qui doivent communiquer sur le corps avec des termes partagés, sans renoncer à l'attention portée aux sensations et à la diversité des morphologies. En dernier lieu, un ouvrage de base solide, mais non un atlas médical exhaustif. Le positionnement du livre mérite d'être clairement défini. Il offre une base vaste et structurée sur les os, articulations et muscles, avec une attention rare aux liens directs entre anatomie et pratique corporelle. Il est donc adapté à une première formation, à la révision ou à la construction de repères fiables pour les professions du mouvement. Plusieurs retours de lecteurs mettent en avant son utilité pour les études sportives, le yoga, le pilates ou les formations manuelles. En revanche, son ambition pédagogique implique aussi des limites. Il ne remplace pas un atlas médical très détaillé, un cours universitaire spécialisé en anatomie descriptive, ni une ressource centrée sur la pathologie, le système nerveux ou le raisonnement clinique. Certains avis signalent également que les conventions de vocabulaire ou certains termes peuvent demander une mise en perspective avec les nomenclatures enseignées localement. Cette réserve ne diminue pas son intérêt, elle indique la meilleure manière de l'utiliser. Le volume doit être lu comme une référence fonctionnelle et visuelle, à compléter lorsque le lecteur a besoin de détails biomédicaux, de protocoles de soins ou d'exercices ciblés. Son statut de premier volume rappelle aussi que la compréhension anatomique gagne à être prolongée par des ressources plus pratiques ou spécialisées. En conclusion, cet ouvrage convient en priorité aux étudiants en anatomie fonctionnelle, aux enseignants de danse, de yoga, de pilates ou de sport, aux praticiens corporels en formation, ainsi qu'aux personnes désireuses de mieux comprendre les gestes qu'elles enseignent ou pratiquent. Les professionnels de la rééducation peuvent également y trouver un support de visualisation et de communication, tout en le complétant par des sources cliniques adaptées à leur champ de compétences. Son bénéfice pratique est de donner un langage précis pour observer le mouvement, localiser une articulation, distinguer les rôles des segments, comprendre les actions musculaires et situer les limites d'une amplitude. Son bénéfice intellectuel est de faire passer le lecteur d'une vision fragmentée du corps à une compréhension fonctionnelle des relations entre formes anatomiques et actions. Par rapport à un atlas médical classique, Anatomie pour le mouvement se distingue par sa pédagogie visuelle et par le lien constant établi entre structure et geste. Par rapport à des guides centrés sur une seule discipline, ils conservent une portée transversale, les repères proposés peuvent servir dans des contextes variés, de la posture à la locomotion. Les nombreux dessins, l'organisation région par région et les ressources visuelles ajoutées dans cette édition renforcent son utilité comme outil de consultation régulière. Il faut néanmoins le considérer comme un socle et non comme une encyclopédie clinique. C'est précisément cette combinaison de rigueur anatomique, de lisibilité et d'orientation pratique qui explique sa place durable parmi les références destinées aux professionnels et aux étudiants du mouvement. Si vous souhaitez soutenir Blandine Calais-Germain, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.